OK, ça fait qu'on va, on va continuer notre étude qu'on a commencée sur glorifier Dieu dans votre corps. Donc, on en est à notre troisième leçon. On va regarder ce soir les sept aspects d'une théologie biblique concernant le corps. Je vous avais dit que l'auteur que j'utilise aime beaucoup les illustrations et les utilise pour son enseignement. Puis, je trouve ça brillant ce qu'il fait parce que. Moi, je suis certain qu'après avoir vu l'illustration que lui utilise pour parler de ça, je ne l'oublierai jamais. Un peu comme la roue que je vous parlais tantôt. J'ai vu ça le 25 ans, je m'en souviens encore. Il utilise une image qui est assez simple pour parler de ce qu'on va regarder. Il utilise l'image d'un collier. Donc, un collier, normalement, il y a une corde, c'est un collier de perles. Il y a une corde qui retient des perles. Lui, il dit qu'il y a huit versets ou groupes de versets qui nous donnent les devoirs que l'on a envers notre corps. Mais avant de nous parler des différentes perles, il va commencer par nous parler du cordon. Le cordon qui retient les perles, qui retient les perles sont enfilées sur un fil, mais c'est un fil à sept brins. C'est pour ça que ce soir, je dis les sept aspects d'une théologie biblique concernant le corps, parce qu'avant de parler des différents versets qui nous donnent des commandements dans nos rapports avec notre corps, il nous parle du fil qui retient les huit. Et le fil, c'est les sept aspects d'une théologie biblique. Alors, on va les regarder. Puis les fils, c'est de valeur que je n'ayez pas. Je serai trop loin. En tout cas, moi, je suis sûr, ceux qui vont avoir les copies, là. J'ai vraiment illustré avec. J'ai trouvé sur Internet des endroits là où j'ai trouvé un collier à huit perles. Puis j'ai trouvé aussi un fil à sept brins. Alors, c'est vraiment pour aider un petit peu à. Tu ne l'as pas, celui-là, encore. Je te vois fouiller, là. Mais je l'ai ici, là. On la regardera après. C'est vraiment. Il commence par vouloir nous dire que avant de vouloir changer quoi que ce soit, dans nos rapports avec notre corps, il faut avoir une bonne théologie du corps. Et la théologie du corps, pour lui, c'est le cordon. Mais le cordon, il y a sept brins. C'est pour ça que ce soir, j'ai dit les sept aspects d'une théologie biblique. Alors, on va commencer par les sept aspects de la théologie biblique du corps. Ensuite, les perles, ça va être des versets ou des groupes de versets qui nous parle de que les commandements que Dieu nous donne par rapport à l'utilisation qu'on va faire de notre corps. Première chose à se souvenir, c'est que Dieu nous dit que notre corps ne nous appartient pas. Des fois, on est un petit peu, on est à moins sur ce corps-là, tu sais. Non, c'est pas à toi. C'est au Seigneur. Et le Seigneur va t'en demander des comptes, dépendamment de ce que tu as fait avec, dépendamment de l'obéissance qu'il te demande, parce que quand on va arriver sur les versets, les groupes de versets, il nous commande un paquet de choses. Et on va se rendre compte que, par l'étude, qu'on a pas mal plus de manquements qu'on pense. Pas mal plus qu'on pense. Et ça comprend différentes choses. On avait parlé un petit peu, ça va comprendre le jeûne, ça va comprendre la nutrition, l'alimentation, ça va comprendre l'exercice, ça va comprendre la sexualité et fort probablement d'autres aspects. On fait juste commencer à regarder le portrait global. Mais moi, je parlais de ça avec Lucie cette semaine. J'ai dit, ça fait quand même pas loin de 40 ans que je suis chrétien, là. J'ai jamais entendu aucun sermon sur la théologie du corps. Moi, je pense que c'est d'autant plus nécessaire que ceux qui ont entendu la première leçon, c'est rendu une épidémie. Tous les problèmes qui ont des rapports avec le corps dans sa mauvaise utilisation, énormément chez les païens, mais possiblement aussi introduit dans les milieux chrétiens aussi. Alors, comme je vous disais, il utilise une analogie. Une analogie, c'est tout simplement une ressemblance qui est établie par l'esprit. Alors, lui, il a le cordon à sept brins. C'est ça qu'on va voir ce soir. Et ce soir et probablement la semaine prochaine, parce que la leçon est quand même assez longue. Et la semaine prochaine, ou l'autre semaine après, on va commencer à regarder qu'est-ce que Dieu nous commande de façon très précise, de façon spécifique. Alors, j'ai juste parlé de ce soir de... Alors, l'auteur, il veut qu'on réalise que la théologie du corps se doit d'être strictement basée sur les Saintes Écritures. Alors, il commence par ça, puis je trouve qu'il va de façon très intelligente. La corde a 7 brins, et 7 brins tressés. C'est comme si tu prendrais une petite corde bien fine, puis tu ferais une tresse à 7 brins. Là. C'est ça qui va former la solidité du fil. Et ça, il dit, il faut que tu commences à vouloir changer quelque chose dans ton rapport avec le corps. Il faut que tu te souviennes de ces choses-là de façon absolue parce qu'elles sont interreliées, ils se croisent et sont ensemble. Alors, les 8 perles, quant à eux autres, ce sont les 8 perles qui vont être enfilées sur ce même brin-là, les brins tissés, qui, eux, vont être des versets ou des groupes de versets qui nous commandent comment nous devons nous acquitter de nos responsabilités quant aux soins que nous devons envers notre corps. Notre corps appartient à Dieu et il nous en a confié l'administration. Nous devrons donc tous en rendre compte personnellement devant le Seigneur. Alors, quand on dit qu'il va nous en rendre compte, ça veut dire qu'il va nous rappeler qu'est-ce qu'il nous a commandé, puis il va regarder comment on s'est acquitté de ces responsabilités-là. C'est pas « je vous conseille », c'est des commandements. Alors, c'est différent. Alors, pour assurer la solidité du collier, 7 brins ont été tressés. Chaque brin est un élément de la théologie biblique du corps. Le fait qu'il soit tressé parle de l'idée qu'étant tissé, ils sont intimement liés et contribuent à la solidité du fil qui retiendra les perles. Pour ceux qui auront les leçons, ben là, je vous ai mis les petits dessins. Moi, je sais bien que je ne l'oublierai plus jamais, là, à cause de ça. Alors, je pense que le fait d'utiliser des illustrations, de toute façon, c'est une façon d'enseigner que le Seigneur Jésus lui-même utilisait. Le Seigneur utilisait abondamment les illustrations quand il enseignait au peuple. Alors, avant de changer quoi que ce soit, dans l'administration de notre corps, nous devons impérativement nous rappeler ces 7 vérités ou ces 7 principes bibliques-là. Sinon, on court à la catastrophe. Alors, on va rappeler le verset, comme je vous ai dit tantôt, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Au reste, ce qu'on requiert dans les administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, si on est des administrateurs de notre corps, la chose que le Seigneur nous demande, c'est d'être trouvé fidèle. Alors, avant de faire l'étude des 8 perles, on va se familiariser avec les 7 brins qui composent le fil. Alors, comme il nous fait remarquer, l'auteur, il nous dit qu'une bonne pratique est toujours basée sur une bonne théologie. Alors, quelque part, avant de vouloir pratiquer quelque chose, il faut avoir une bonne théologie. Et c'est ça qu'il fait ce soir en commençant à nous parler de la théologie biblique du corps avant de nous dire les commandements que le Seigneur nous donne par rapport à ça. Alors, la première vérité, ou le premier brin, des 7 brins qui sont tissés, là, la première vérité est celle-ci. Le corps est bon. Parce que si vous regardez l'histoire de l'Église, à partir du 1er siècle, à venir jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément d'abus, il y a eu énormément de faux enseignements concernant le corps. Parce qu'il y a eu beaucoup de siècles, beaucoup d'enseignements où on disait que le corps était mauvais, que l'esprit était bon, mais que le corps, lui, était mauvais. Si on part avec cette idée-là et qu'on veut changer de quoi dans nos rapports avec l'administration de notre corps, on fait fausse route immédiatement. C'est pour ça qu'il faut commencer avec les 7 brins qui sont la base très solide. Le corps est bon. Alors, en créant l'homme à son image, Dieu donna à l'homme une existence corps-âme. Les deux étaient reliés ensemble. Cela confère de la valeur, de la dignité et de la permanence à notre existence corporelle. Donc, dans les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse, ça établit avec force cette affirmation-là que je viens de dire. En créant l'homme à son image, Dieu fit une créature avec 2 entités distinctes, un corps et une âme ou un esprit. Ce n'est pas seulement l'âme ou l'esprit qui porte l'image de Dieu. Ce n'est pas un que l'âme ou l'esprit qui porte l'image de Dieu, c'est le corps et l'âme. Ils étaient réunis au début et Dieu avait dit « cela est très bon ». Alors Genèse 1, 27 dit « Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle ». Alors l'intention originelle de Dieu était que ces deux aspects-là de leur existence, le corps et l'âme, ne devaient pas être séparés. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été séparés?
La chute.
La chute, le péché. Alors, l'introduction du péché dans le monde amena une séparation radicale de ce que Dieu voulait qu'il soit uni. Et cette séparation-là, les Écritures en parlent comme étant le salaire du péché. Après la chute, il y a eu des choses qui sont arrivées. Alors, quand on lit, par exemple, dans Romains, chapitre 5, verset 12, ça dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » C'est qui, le seul homme? Adam. « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Et par le péché, la mort. Donc, si l'âme et le corps étaient réunis, puis que s'il n'y avait pas eu l'intervention du péché, il aurait vécu continuellement. Alors, l'introduction du péché a amené la mort. Le reste du verset, ça dit, « De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Romains 5, 12, ça a l'air d'un verset facile à comprendre, mais ce n'est pas si facile que ça, quand on s'arrête. La Bible dit qu'on était en Adam. On était responsable en lui, avec lui, de la décision qu'Adam a prise. Là, on est porté à dire, « Ben voyons donc, je ne peux pas être porté, qu'on m'accuse d'être coupable d'un acte où je n'étais même pas là. » La Bible nous dit, « De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Donc, en Adam, tous les hommes étaient d'une façon que les théologiens ont beaucoup de difficultés à expliquer, eux aussi, parce que c'est pas un verset qui est si facile que ça à comprendre. On était coupable, même si on n'était pas là. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible ne s'accorde pas avec la notion philosophique païenne que notre corps n'est qu'une prison ou une maison pour l'existence de notre existence spirituelle. Pour notre vie spirituelle, ce n'est pas juste une prison, notre corps, pour permettre à notre esprit de vivre. En fait, l'apôtre Paul affirme que la tentative de saper ou de discréditer l'usage légitime de la satisfaction de nos appétits physiques tels que créés par Dieu est un enseignement de démon. Regardez, on va le lire, 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter quand on en use avec des actions de grâce. Ceux qui ont lu un petit peu l'histoire de l'Église à l'époque de Luther, par exemple, Luther, quand il était dans son couvent, était en train, pour se débarrasser du péché, il se fouettait, il se martyrisait, il faisait toutes sortes de jeûnes, il se mettait des braquettes, une ceinture de braquettes autour de la ceinture, il se mettait des billes, des petits cailloux dans leurs souliers, parce que plus il souffrait, plus il pensait que c'était pour les aider à se débarrasser du péché. Jusqu'à ce qu'un jour, il lise le Romain, où on dit « le juste vivra par la foi », où il a compris que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les souffrances que tu t'imposes toi-même que tu peux te rapprocher de Dieu. Il y a eu toute l'époque, si quelqu'un donne la peine d'aller voir l'histoire de l'Église, les rapports de la religion avec le corps, c'est vraiment un rapport, à part de que ceux qui étaient éclairés par les Écritures, c'est vraiment un rapport où que c'était très, très, très Le corps était considéré comme mauvais. Alors, le premier brin qu'il faut se souvenir, c'est que le corps est bon parce que Dieu l'a créé bon et que tout enseignement qui nous dit que l'utilisation de notre corps, soit pour le mariage ou soit pour manger quoi que ce soit, il dit que si on embarque dans ces histoires-là, il dit que c'est des doctrines de démons. Donc, c'est les démons qui emmènent ces doctrines-là. Ils cherchent à embarquer les hommes là-dedans. Et il ne faut pas penser que ça ne marche plus aujourd'hui, là. Ça a marché dans beaucoup de siècles, ça continue de marcher encore, et ça va continuer de marcher jusqu'à la fin. Les Saintes Écritures nous affirment que ce sera seulement lorsque nos esprits et nos corps glorifiés seront de nouveau réunis par la résurrection de notre corps que la grâce rédemptrice sera pleinement accomplie. Quand quelqu'un meurt, comme je l'ai fait récemment, là, Madame... Giroux qui est décédé, puis on est allé au cimetière, on a fait son inhumation. Et c'est une chose, je rappelais aux gens que son salut, oui, elle va au ciel, mais actuellement, Mme Giroux est là dans son âme. C'est son âme qui est là. Son corps est dans la terre. Et il va être réuni à son esprit à la résurrection des corps. Et là, elle va retrouver la condition que Dieu avait établie au départ. Au départ, Dieu avait donné un corps et une âme, puis c'était pour qu'ils demeurent tous les deux liés et qu'ils restent ensemble pour l'éternité. Mais à partir du moment où Dieu va te redonner ton corps, il va te ressusciter ton corps, ton âme qui est au ciel et tous les âmes des chrétiens qui sont déjà au ciel vont recevoir leur corps à la résurrection, au retour de Jésus-Christ. Et là, leur corps et leur âme vont être unis, comme la volonté de Dieu primitive, mais pour l'éternité. C'est intéressant de rappeler ces choses-là parfois. Parce que dans Romains 8, versets 23-25, ça dit « Et non seulement elle, mais nous avons aussi les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand le corps va dans la terre puis pourrit en attendant, ton corps est racheté, mais en espérance. Il n'est pas racheté. Il va être racheté quand il va être réuni avec ton âme au ciel. Là, il va être complètement racheté. Là, il est racheté, mais en espérance, par la foi. Les gens qui se font enterrer, ils savent qu'un jour, leur corps va leur être redonné et être réuni avec leur âme. Il dit, car nous sommes sauvés en espérance. Ici, il parle de l'espérance du corps. Nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerons-nous ce que l'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Jusqu'à quand le Seigneur va revenir, il va s'être passé énormément de centaines d'années avant que ce phénomène-là se produise. Mais comme chrétiens, on croit qu'un jour ça va arriver. Alors quand ça nous parle, ce que nous attendons avec patience... Mais un jour, Mme Giroux, le corps qu'on a mis dans la terre va se réunir avec son âme. Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toute chose. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 5. Nous savons en effet que si cette tente, il parle du corps, parce qu'il utilise des images pour parler du corps. Il dit, car nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme, car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel. Si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que nous souhaitons non pas d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Le corps qui est dans terre va être absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné aussi les arts de son esprit. Alors, nous deviendrons alors, quand il va réunir nos corps avec nos esprits, des créatures sans péché dans un corps immortel. Ça va être le fun, hein? Un corps immortel, puis il ne pêchera plus ce corps-là. Mais pour l'éternité. Nos corps ont une grande valeur et une grande dignité. Et c'est fort probablement le problème qu'il y a dans la société moderne aujourd'hui, et même chez les chrétiens, qu'on oublie cela. Ils seront, bien entendu, nos corps, un élément essentiel de notre condition permanente de pécheurs rachetés dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La réalité de cette vérité sera validée même chez les inconvertis qui meurent étrangers à la grâce en Jésus-Christ, parce qu'eux aussi vont être réunis avec leur corps à la résurrection. Les chrétiens vont le faire, et les non-chrétiens aussi, mais eux, ce ne sera pas pour vivre éternellement dans le ciel, dans la félicité et dans le bonheur éternel, dans la présence de Dieu. Ça va être leur corps réuni avec leur âme pour être plongé vivant dans le lac de feu. Leur âme est déjà là, mais là, l'âme et le corps vont être réunis et ils vont vivre cette réalité-là dans la réalité du corps et de l'âme réunis pour l'éternité, indestructible, immortel. Alors, leur corps ressuscité et leur âme sera réunie pour ceux qui sont non-croyants pour être jetés dans l'enfer éternel. Ce sont les mots du Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 10, verset 28. Et ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. L'âme et le corps, il dit bien les deux. Premier brin, deuxième brin. On va regarder le deuxième brin. Le deuxième brin, c'est de nous rappeler que nous avons un corps déchu. Oui, on a le corps, mais à cause du péché, notre corps est déchu. Donc, la chute de l'homme a produit des résultats désastreux, des anormalités physiques, des maladies dégénératives, différentes maladies physiques et mentales, et la mort elle-même, qui sont tissées dans la fibre même de notre existence. Ces résultats demeureront avec nous jusqu'au retour du Seigneur et à la rédemption de nos corps. Ça, là, la chute est arrivée et on ne peut pas rien y faire. Jusqu'au retour du Seigneur, ça va demeurer comme ça. On va avoir le corps que le Seigneur nous a donné, qui est plein de dignité et de valeur, mais qui est quand même un corps déchu. Alors, Genèse 3, 19. Dieu a dit cela à Adam après la chute. « Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Selon les versets suivants, on va en donner quelques-uns, nos corps continueront d'être des corps d'humiliation qui nous amèneront à gémir et à soupirer. Tant qu'on va être dans notre corps, même si c'est créé par Dieu, c'est quand même un corps déchu, et on va gémir et on va soupirer à cause de cela. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2. « Car nous soupirons dans cette tente. » Quand il dit « tente », il n'est pas en train de parler qu'on se met une tente dans la cour. Il parle de la tente comme étant le corps. « Car nous soupirons dans cette tente, désirant avec ardeur de nous revêtir de notre domicile qui vient du ciel. » Désirant avec ardeur. Quand on dit qu'on gémit, « t'as hâte. » Je ne sais pas si des journées où vous avez hâte. Moi, il y a des journées où j'ai hâte. Vraiment, on soupire. On aimerait ça être libéré, mais on ne le sera pas tant que ça n'est pas terminé. Romains 8, 23. Et non seulement elle, mais nous avons aussi les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Philippiens 3, 21. Qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Il est en train de parler que quand on va avoir notre nouveau corps qui ressemble à celui de Jésus-Christ, on gémira plus. Il ne sera plus pécheur, il ne sera plus Il sera plus mortel, il sera plus, il y a plus de souffrance, plus de larmes, plus d'hôpitaux, plus de maladies, plus d'infirmités. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons point courage. Si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si, à quelque part, notre corps, quand on l'a eu, il pouvait être bien beau, en vieillissant, des fois, il devient moins beau, il vieillit, il devient malade. Il dit, c'est ça qu'il nous dit, perdons pas courage, si notre homme extérieur, la peau, notre structure se détruit, n'est-ce pas qu'on s'en rend compte, qu'on se détruit tranquillement, on s'en va vers la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tranquillement, on s'en va vers la mort. L'intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Donc, à quelque part, Dieu permet qu'on... Alors, nous devons nous méfier de tout enseignement qui affirme que nous sommes nés avec des dispositions et des capacités naturelles et que si nous les reconnaissons et les utilisons correctement, nous jouirons d'une parfaite santé pour une période indéfinie de temps. Je l'ai vu, ça, dans des livres, là. Les gens disent que si on connaissait les lois de la nature et qu'on les observait à 100%, autrement dit, ils sont en train de dire que tu vivrais quasiment éternellement. Et ils font, autrement dit, ils disent que c'est notre ignorance qui fait en sorte qu'on est malade, qu'on vieillit, qu'on s'en va vers la mort. Ce n'est pas notre ignorance, c'est une condamnation divine, pas la même chose du tout, là. Alors, certains font la promotion d'une santé perpétuelle à être atteinte par un certain régime d'aliments, de suppléments alimentaires ou d'exercices physiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure ces choses-là, là. Mais ça veut dire que tu ne peux pas obtenir la santé indéfinie par ces moyens-là. N'oublions jamais qu'un corps déchu dépérit graduellement, vieillit et se dirige vers la mort de façon inéluctable. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, là. Prends un beau petit bébé, il est jeune, tout est beau, tout est parfait. Donc, en grandissant, ça commence à... Les cheveux tombent, les dents tombent, les oreilles, on entend moins. Et plein de choses qu'on pourrait allonger très, très, très longue, la liste, là. Hein? Mais on sait qu'on se dirige directement, inéluctablement, vers la mort. D'autres interprètent mal certains textes bibliques qui nous disent que le Seigneur a pris nos maladies et nos infirmités. Ça ici, là, on rentre dans un domaine où on rentre dans ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité et l'évangile que tu commandes à Dieu, puis il donne la richesse, puis il donne la santé. C'est comme si toi, t'es Dieu, puis tu passes tes commandes. Matthieu, alors, c'est des versets qui interprètent mal, c'est les versets suivants. Matthieu 8, versets 16 et 17. « Et le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques, et il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous ceux qui se portaient mal, afin que fût accompli ce qui a été déclaré par le moyen d'Ésaïe le prophète, disant, « Lui-même a pris nos infirmités et a porté nos maladies. » Autrement dit, sert de ce verset-là pour dire que le Seigneur a pris tes infirmités et tes maladies, que tu n'as pas de raison d'en avoir aujourd'hui. C'est carrément là, utiliser des versets hors contexte. C'est vraiment tort des Écritures, comme on dit. Et il se base aussi sur Ésaïe 53, verset 4. « Cependant, il parle de Christ dans le contexte d'Ésaïe 53. « Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mouvement américain qui s'appelle Christian Science, la science chrétienne, de Mary Baker Eddy, qui a été fondée en 1866 et qui s'est développée jusqu'à avoir aujourd'hui, là, au moment qu'on se parle, 1800 églises dans 82 pays. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des faits réels qui se produisent dans toutes sortes de pays. Ils enseignent que le péché et la maladie sont des erreurs et des illusions. Elle-même est morte. Puis elle-même, elle allait voir un dentiste, c'était qu'une illusion. La fait que ça pas aller voir le dentiste, c'était une illusion. C'est vraiment drôle. Quand tu lis leur vie, ces gens-là, c'est drôle, puis c'est triste en même temps. Alors, Mary Baker Eddy et ceux qui la suivent nient leur réalité de la maladie et du péché, et ils se basent sur la bonté de Dieu et affirment que l'être humain... Autrement dit, ils disent « Dieu ben trop bon ». Si t'es malade, c'est parce que c'est ton esprit qui... Il y a des principes que t'as pas compris. Parce qu'ils disent « Dieu est bon, donc il peut pas avoir voulu que tu sois malade ». Et affirme aussi que l'être humain peut s'auto-guérir. Mais là, on se dit peut-être que ça n'existe plus, ces choses-là. Ben oui, ça existe encore. Ces enseignements sont des dénis de la vérité biblique qui affirme que les effets de la chute ne seront effacés qu'au moment du retour du Seigneur et de la résurrection des corps. En attendant, la maladie physique et mentale, les corps avec toutes sortes de difformités et d'infirmités, des aveugles, des sourds, des muets, demeureront dans la race humaine et même chez les croyants. Là, quand on dit le corps est bon, il était créé bon, mais là, on a le deuxième brin, le corps, c'est un corps déchu. Et il faut se méfier beaucoup des faux enseignements. Il y en a eu au cours des siècles, il y en a encore. Il faut vraiment se méfier. Ça court les rues aux États-Unis. Là. Je regardais le siège social de ça. Je pense, si tu ne me trompes pas, c'est à Boston. C'est énorme. C'est en 82 pays. C'est gros, là. Alors, il faut faire attention. Dans les grosses villes, ça court les rues et ils convainquent des gens de ça. Puis ils donnent des tonnes de littérature pour les convaincre que ces choses-là sont vraies. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. On a juste deux brins de fête. On fera les autres brins une autre semaine.